Radio Kapi.
Oh, Kapi. Belinda Bosuma à la présentation.
Début du retrait de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Un premier contingent a quitté Goma tôt ce matin à destination de Nairobi. Ceci fait suite à la décision de la RDC de ne pas renouveler le mandat de cette force accusée d'inefficacité. Élection 2023 à RDC. La campagne électorale lancée il y a deux semaines s'est poursuivie à travers le pays. Dans ce journal, nous faisons le point des activités des candidats présidents de la République. Et puis, l'invité de ce midi, Omar Kavota, chef d'antenne PDDRCS à Beni, il nous parle de la récente formation sur l'enregistrement et l'identification des armes et munitions à Beni. Formation organisée par la cellule Embargo sur les armes de la MONUSCO pour retracer les différentes armes reçues des combattants qui rejoignent le programme. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu au début ce dimanche du retrait de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et ACRF. Un premier contingent de plus de 100 hommes a quitté Goma tôt ce dimanche matin à destination de Nairobi au Kenya. Ce retrait fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler le mandat de cette force accusée d'inefficacité. Le point avec Jacques-Yves Molima.
C'est aux petites heures du matin de ce dimanche que plus de 100 militaires kenyans de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est ont quitté la République démocratique du Congo par l'aéroport international de Goma. En mission en RDC depuis une année, ils avaient pour objectif d'occuper les espaces conquis par les rebelles du M23. Accusés par la population de cohabiter avec les rebelles, le gouvernement congolais avait donné à cette force régionale jusqu'au 8 décembre pour quitter le sol congolais. Avant le début de son retrait, ces contingents ont reçu la visite du chef des forces de défense de l'armée kenyane, le général Francis Ogola. Il a félicité les troupes de la force régionale pour le travail réalisé depuis leur déploiement dans l'est de la RDC. Il a aussi visité les contingents kenyans déployés à Goma, ainsi que dans les bases de Kibati et de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Goma. Jusque-là, nous n'avons pas encore de précisions sur le calendrier de retrait des troupes de cette force qui comprend non seulement les Kenyans, mais aussi les Ougandais et les Burundais notamment. La population, elle, salue déjà les débuts de ce retrait. Pour John Banyene, président de la société civile au Nord Kivu, il était temps que cette force quitte la RDC. Pour lui, dans cette force régionale, seuls les contingents burundais étaient du côté de la population congolaise.
Parlons à présent des activités des candidats présidents de la République. Je veux être le candidat président de la paix et du pain. C'est en ces termes que le candidat Jean-Claude Bayindé a résumé son programme hier samedi au cours de son premier rassemblement de campagne à Kingabwa, dans la commune de Limete à Kinshasa. C'était devant une foule venue écouter son message. Cet ancien gouverneur de l'Équateur a décliné en 4 ou 5 axes son programme qu'il compte appliquer s'il est élu président de la République. Jean-Pierre Ilali Koko a suivi pour nous ce meeting, voici son reportage.
Déclinant son programme, Jean-Claude Bayindé a déclaré que la paix et le pain sont des concepts qui conduiront au développement de la République démocratique du Congo, car ces deux concepts constituent tout un projet de société dans la vie des Congolais. Que veut les Congolais aujourd'hui, s'est-il demandé? Les Congolais veulent bien manger, ils veulent se faire soigner, étudier dans de bonnes conditions et avoir de l'emploi, et surtout la restauration de la paix et de la sécurité dans l'est du pays, à Kwamout, et la fin du phénomène Kuluna dans toutes les grandes villes du pays avec une police qui les protège, a-t-il répondu. Pour réaliser ces vastes projets, Jean-Claude Bayindé a mis un accent sur le transport public par la reconstruction des routes, la restauration des voies aériennes, la cuistre fluviale qui relierait tous les coins du pays. Sur le plan économique, le candidat Bayindé a fait savoir que le Congo regorge des richesses forestières et minières, mais qui ne profitent pas aux Congolais, qui sont devenus, je le cite, le peuple le plus pauvre de la planète. Il a la foi de devenir le président de la RDC parce qu'il a les soucis de ce pays et que l'expérience accumulée dans la gestion de la province de l'Équateur, il la mettra au profit de tout le peuple congolais.
De son côté, Martin Fayulu, candidat président de la République numéro 21, membre de l'opposition congolaise, est arrivé hier dans la ville et le territoire d'Uvira, au sud Kivu. Dans un rassemblement tenu au stade de l'unité d'Uvira, jusque tard dans la soirée, l'autorité morale de l'ECID s'est prononcée sur son projet de société axé sur une dizaine de piliers et orienté vers tous les secteurs de la vie. Il a parcouru la plaine de la Ruzizi avec plusieurs arrêts avant de tenir son rassemblement devant la foule. Fiston Ngoma.
Le candidat président numéro 21 n'est pas passé par les dos de la cuillère pour dénoncer une gouvernance caractérisée par la corruption et le vol entretenu selon lui par les animateurs des institutions actuelles. Il a fait allusion à plusieurs projets, dont celui des 100 jours et Chile jaloux. Il appelle le peuple congolais à la vigilance et à voter pour lui en vue de changer les choses. Le candidat président numéro 21 a rejeté en bloc les accusations sur sa corruption dans cette campagne par l'Union sacrée. Il suspecte le camp Katumbi d'avoir orchestré ses balivernes alors que ce dernier l'avait quitté à Lamuka pour rejoindre la même mangeoire que Fatshi avant de décamper, une trahison d'après lui qui n'est pas à la énième fois du candidat président numéro 3. Après l'étape d'Uvira, Martin Fayulu Madi du numéro 21 poursuivra sa campagne à Kindu au Maniema. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Au nord Kivu voisin, c'est le candidat à la présidentielle, Denis Mukwege, qui séjourne à Goma depuis hier. À son arrivée en début d'après-midi, le candidat numéro 15 est allé s'incliner devant la tombe de Luc Nkulu Lamwamba, un militant de la LUCHA, lutte pour le changement, qui a perdu la vie dans l'incendie de sa maison à Goma le 10 juin 2018. Après cet hommage, signe de son soutien à la lutte pour la démocratie, il a animé son meeting à la tribune de l'ONC. Rosalie Zawadi revient sur les grandes ligne de l'adresse de Mukwege à la population de Goma.
Prix Nobel de la paix, Denis Mukwege promet de travailler pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Si je suis élu président de la République, je vais lutter contre la faim et le chômage des jeunes, a-t-il dit. Les jeunes de l'Est qui se retrouvent dans les groupes armés, il promet de les intégrer dans des programmes agricoles afin qu'ils travaillent pour nourrir le pays. Pour lui, tous ces jeunes, aujourd'hui armés, sont une bombe à retardement pour la République s'ils ne sont pas correctement encadrés. Le candidat numéro 15 a dénoncé les vices qui caractérisent notre pays et qu'il ne va pas tolérer une fois élu président. Candidat indépendant à la magistrature suprême, c'est la synergie des amis des valeurs de Mukwege qui poursuit sa campagne au Nord Kivu après son départ, a dit le président de cette synergie. Goma, Rosalie Zawadi. Radio Kapi.
Pour sa part, le candidat Félix-Antoine Tshisekedi suspend sa campagne électorale pour 3 jours à dater du samedi 2 décembre en hommage aux victimes de Mbanzangungu au Congo central, annonce faite par la direction de son équipe de campagne. Pour rappel, des morts et des blessés ont été enregistrés à la suite d'une bousculade au stade de Mbanzangungu où le président avait tenu son meeting vendredi dernier. De son côté, le candidat Floribert Anzuluni a organisé une conférence débat hier à Bukavu au sud Kivu. Parlons à présent de la COP 28 aux Émirats Arabes Unis. La RDC va bénéficier d'une aide de 60 millions d'euros, le Congo-Brazzaville 50 millions et la Papouasie 100 millions pour protéger leurs forêts. Cette annonce a été faite hier à Dubaï par le président français au cours de son discours. Selon Emmanuel Macron, il faut soutenir ces pays qui préservent leurs écosystèmes et c'est une urgence de mettre de l'argent dans ces genres de programmes, ajoute-t-il. On écoute le président français Emmanuel Macron dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Les forêts et les océans font partie de nos COP parce que ce sont des puits de carbone irrécupérables et un levier de solution extraordinaire pour la transition. C'est pourquoi, à l'occasion de cette COP, on va continuer la mise en place d'abord d'une technique commune, mais je veux qu'on avance et qu'on accélère sur une vraie bourse des mécanismes communs de carbone et de biodiversité. On doit emmener beaucoup plus d'argent privé vers les pays qui préservent leurs forêts et leurs écosystèmes. On a lancé ça à Libreville en début d'année. On va conclure avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guinée et le Congo, les premiers, justement, packages nationaux forestiers. Et l'idée, c'est de dire on met des crédits publics et privés sur les pays qui préservent leurs forêts. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas cette technique. Et donc, on met beaucoup d'argent pour faire de la reforestation. Mais tout pousse des pays pauvres ou émergents à détruire leurs forêts aujourd'hui pour financer des activités économiques beaucoup plus rentables. C'est une urgence de mettre de l'argent dans ces approches pays par pays et d'avoir une méthodologie commune. Et nous investirons 500 millions d'euros dans les 4 prochaines années dans la protection des forêts suivant cette méthode.
Dans l'actualité aussi, les transporteurs routiers congolais recommandent la mise en application des recommandations arrêtées il y a 2 semaines lors de la dernière tripartite, gouvernement, patronat, syndicat des routiers. Leur porte-parole, André Tshikoji, l'a rappelé hier samedi lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. À cette occasion, il a invité le gouvernement à supprimer les barrières illégales, à décourager les tracasseries policières et à mettre fin aux amendes forfaitaires sur les routes du pays. André Tshikoji a également demandé au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour décanter la situation des transporteurs poids lourds. On écoute le porte-parole des transporteurs routiers congolais dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Et ce qui était même demandé par le chef de l'État lui-même lors de notre rencontre avec lui, la suppression immédiate des barrières de Mitendi et Mpozo pour permettre la fluidité du trafic, ce qui devrait aussi permettre à ce que la fin du mois de novembre, qu'on voie un peu ce que nous avions demandé comme effort au patronat en faveur des conducteurs. Il y a 2 jours, on a assisté à l'arrestation des véhicules remorques, les chauffeurs mis au cachot pour motif qu'on ne doit pas circuler dans la ville la journée. Donc la situation s'est dégradée de plus en plus. Et vous allez dans l'autre sens, non loin d'un scellé ici, il y a une barrière où on fait payer des amendes allant de 1 000 à 2 000 $. J'insiste, il faut que les pouvoirs publics suivent cette situation. Et nous nous interrogeons où va cet argent qu'ils demandent aux camionneurs. Parce que le camionneur, c'est un travailleur, il n'est pas patron. On prend à bord de ces véhicules braise, cossette de manioc et tout ça, c'est pour alléger la tâche à la population à Kinshasa.
Au Maniema, la SNEL vient d'être dotée d'un nouveau groupe électrogène de 500 kVA. La mise en service de ce groupe est intervenue hier par le ministre de l'Énergie en présence de l'assistant technique du directeur général de la Société nationale d'électricité. Selon le directeur provincial de la SNEL Maniema, ce groupe vient améliorer la desserte en énergie électrique dans la ville de Kindu et ses environs en cas d'indisponibilité de la fourniture à partir de la centrale hydroélectrique de Luchurukuru qui se trouve à Kalima, 101 km de Kindu. Florence Kizalunga, reportage.
L'acquisition de ces nouveaux groupes électrogènes est un ouf de soulagement du côté des SNEL qui va lui permettre d'améliorer sa clientèle, a dit le directeur provincial Edouard.
Pour la petite histoire, la SNEL Maniema a fonctionné avec les groupes thermiques. C'est en 2007 que le mode de fonctionnement avait migré vers l'installation à partir de la centrale hydroélectrique de Chukur jusqu'à ce jour. Cependant, ici est de signaler que l'alimentation avec la source de Kalima est émaillée de beaucoup d'aléas. L'inauguration de cet équipement électromécanique s'inscrit dans le cadre de renforcement énergétique au déficit qui s'observe depuis octobre 2020 par la perte de 2 machines au niveau de la centrale qui fonctionne à ce jour avec une seule machine qui ne peut produire que 1200 kW à répartir entre Kalima et Kindu.
Le représentant du DG SNEL demande l'accompagnement du gouvernement provincial et à la population d'honorer leurs factures. Georges Okanda.
Nous vous amenons un groupe de secours, c'est-à-dire en cas de difficulté, en cas d'indisponibilité de la ligne 30 kV Rutshuru-Kuru, ces groupes va nous desservir de l'énergie électrique. Je demande à la population du Maniema de payer régulièrement leurs factures. Maintenant, nous avons une centrale thermique qui a aussi des exigences.
Déjà pour son démarrage, le directeur général de la SNEL a offert 3 mètres cubes de gazole. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, la gratuité de la maternité et de la prise en charge du nouveau-né sera lancée imminemment dans la province du Congo central. C'est dans ce cadre que Hugues Fariala, directeur général de l'autorité de régulation et contrôle de la couverture santé universelle, séjourne à Matadi. À l'occasion, Hugues Fariala a visité 3 grandes structures médicales de Matadi qui accueilleront dans un premier temps cette gratuité de la maternité. D'autres détails avec Nana Plourish Mambo.
L'hôpital provincial de Kinkanda et ceux de référence de Matadi et de Kiamvu sont choisis pour la phase expérimentale dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle dans son paquet mère et enfant, notamment la prise en charge de la femme enceinte, de l'accouchement et du nouveau-né. Le médecin directeur de l'hôpital provincial de Kinkanda affirme apprécier ces projets, mais un appui du gouvernement s'avère indispensable pour sa réussite. Docteur Bijoun Soki.
J'ai l'impression sur le meilleur, mais au niveau de la maternité, nous avons des lits qui sont vétustes. Et puis, nous n'avons pas un appui global, il n'y en a pas.
Pour sa part, le directeur général de l'autorité de régulation et contrôle de la couverture santé universelle qui a visité ces hôpitaux s'est dit satisfait du constat sur terrain mais il reconnaît néanmoins qu'il faut un appui pour accompagner ces structures médicales à bien exécuter ces projets. Hugues Fariala.
Il mérite un appui qui vont permettre qu'il soit dans ces plateaux techniques d'un hôpital provincial pour que l'hôpital provincial offre à la population du Congo central des soins de qualité comme la couverture santé universelle l'exige.
Les hôpitaux privés conventionnés viables du Congo central seront aussi mis à contribution dans l'exécution du programme de la gratuité de la maternité, a affirmé Hugues Fariala. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Cameroun. Imbroglio autour de la libération des accusés de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo le vendredi 1er décembre a été chamboulé par deux décisions majeures. La première annonçait la libération provisoire du patron du contre-espionnage, Léopold Maxime Ekoeko, et le patron du groupe L'Anecdote Amougou Belinga, écroué depuis 9 mois. Ils étaient soupçonnés de complicité de torture sur l'animateur de radio et lanceur d'alerte Martinez Zogo. Dans un communiqué, le lieutenant-colonel Florent Aimé Sikati expliquait que la détention de ces deux hommes n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Motif, un certain Justin Danoué, présenté jusqu'alors comme le chef présumé du commando qui a tué Martinez Zogo et principal accusateur d'Amougou Belinga, s'était rétracté.
L'invité.
Notre invité Omar Kavota, chef d'antenne de Beni, du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS, dont les agents ont suivi une formation sur l'enregistrement et l'identification des armes et munitions du 29 novembre au 1er décembre 2023 à Beni au Nord Kivu. Formation organisée par la cellule embargo sur les armes de la MONUSCO. Selon lui, cette formation leur permettra de retracer les différentes armes reçues des combattants qui rejoignent le programme. Omar Kavota est avec André Kitenge.
Maître Omar Kavota, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de terminer une formation de 3 jours sur l'enregistrement et l'identification des armes et munitions, une formation organisée par la cellule embargo sur les armes de la MONUSCO. Peut-on savoir de quoi il a été question?
Il faut dire que cette formation de 3 jours a consisté essentiellement à renforcer la capacité du personnel du PDDRCS à antenne de Beni et à substance, il était question que nous soyons outillés sur les notions d'enregistrement et d'identification des armes et munitions, étant donné que nous gérons le programme de désarmement et à ce titre, nous recevons des combattants porteurs d'armes. Il était ainsi utile que nous puissions être informés ou être formés sur les mesures ou les précautions à prendre et comment retracer les différentes armes reçues ou du moins comment aider les experts à retracer avec nous les armes et munitions que nous recevons.
Y avait-il nécessité pour une telle formation à l'intention de vos agents?
Bien entendu, parce que c'était une réponse même à notre demande. Et nous avons été à l'occasion formés ou informés sur les régimes d'embargo en RDC, les normes standards internationaux de gestion et de contrôle des armes et munitions, parce que le programme a aussi pour vocation de lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, de lutter contre les armes à destination des groupes armés. Et comme vous le savez, même si la RDC est sortie sur le régime des sanctions et d'embargo, mais le régime reste maintenu contre les membres des groupes armés. Et il revient au PDDRCS attaque institution de l'État, aux côtés d'autres mécanismes mis en place, que nous puissions contribuer à documenter sur ces faits pour qu'on puisse décourager des armes et munitions qui sont amenées vers les groupes armés. Mais également, cette formation était capitale pour nous parce qu'elle nous a permis d'être capacités, d'être outillés sur la manière de mener les enregistrements et l'identification des armes et munitions. Et comme je vous ai dit, nous menons le travail de désarmement avec le FRDC, mais à première vue, les combattants viennent d'abord au PDDRCS. Et pour qu'ils soient éligibles, ils doivent être munis des armes et de munitions. Nous devons renseigner, nous devons documenter sur ces armes et ces munitions. Et donc, cette formation était d'une très grande capacité. Mais comme vous le savez également, le PDDRCS, pour les innovations actuelles, a ajouté le respect des droits humains comme une plus-value, comme une innovation fondamentale. Et nous avons été aussi à l'occasion capacités sur des notions des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Donc voilà combien de fois c'était très pertinent pour le personnel PDDRCS dans l'exercice de leurs responsabilités, et donc ça a été très bénéfique.
Et qu'est-ce que la communauté peut attendre de vous aujourd'hui? Vous êtes formé sur l'enregistrement et l'identification des armes et munitions. Il y a la population. Qu'est-ce que la population peut attendre de vous?
La communauté doit attendre qu'elle fait ou elle réalise ce programme avec des professionnels et des professionnels qui ont acquis l'expertise, des experts qui sont connus à travers le monde ou qui sont attitrés. Mais aussi, nous disons que les armes légères et petits calibres qui sont utilisées par les groupes armés, c'est un danger permanent pour la communauté. Nous devons retracer, nous devons tracer ces armes. Nous devons savoir les armes qu'utilisent les groupes armés viennent d'où. C'est vrai qu'au niveau du PDDRCS, nous avons un service chargé de lutte contre le financement des groupes armés, mais nous devons, dans ce cadre aussi, savoir quelles sont les armes qui utilisent couramment les groupes armés, d'où viennent ces armes, pour que nous puissions aider l'État, pour que nous puissions aider la communauté à pouvoir se sécuriser ou à retracer tout au moins les auteurs des circuits illicites d'armes vers les groupes armés. Cela peut nous aider aussi à savoir comment est-ce qu'on peut arriver à endiguer ces phénomènes de groupes armés ou de ravitaillement en armes ou en munitions des groupes armés, et savoir aussi ces auteurs, ces personnalités ou ces personnes qui violent de manière flagrante l'embargo des armes contre les groupes armés, alors que notre pays, qui est membre des Nations Unies, doit aider les Nations Unies à faire respecter l'embargo sur les armes en direction de groupes armés.
Maître Omar Kavota, merci.
Merci à Radio Okapi.
Le chef d'antenne du PDDRCS à Beni répondait aux questions de André Kitenge. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima à Outa. Supervision de Alain Rongmouchinj, à la mise en onde Pierre Diassinois. Merci d'avoir été des nôtres.